Lysandre fut un général et un homme d'État renommé de la ville-État de Sparte, célèbre dans l'Antiquité pour ses guerriers redoutables. Sa maxime favorite était « il faut coudre la peau du renard à celle d'un lion ». En d'autres mots, on doit faire la guerre en suivant seulement deux principes, la force et la perfidie. Cet état d'esprit lui permit de vaincre Athènes, la grande ville rivale. Cet homme était un monstre qui fut lui-même tué au combat. Quant à Sparte, elle fut éventuellement vaincue et perdit son indépendance pour finalement atterrir dans le giron de Rome. Les monstres font beaucoup de mal, mais tôt ou tard, Dieu les juge. Je continue à lire dans le chapitre 7 de Daniel, dans lequel il reçoit des explications concernant la quatrième bête qu'il a vue dans sa vision. Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la quatrième bête qui était si différente de toutes les autres. Cette bête très effrayante qui avait des dents de fer et des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Versets 19 et 20. Ce texte n'est pas une reprise de la vision comme si elle recommençait sous les yeux du prophète. C'est Daniel qui expose et répète à l'ange tout ce qu'il vient de voir en mentionnant au passage de nouveaux détails. C'est ainsi que nous apprenons que la quatrième bête a des griffes d'airain et que la petite corne qui avait poussé paraissait plus grande que les 10 autres. Cette bête est très différente des 3 précédentes parce que les peuples sous sa domination sont plus diversifiés et plus nombreux que sous les autres empires. Au summum de sa gloire, l'Empire romain englobait totalement le bassin méditerranéen, la mer Noire et s'étendait jusqu'au bord de la mer Caspienne. Les nations sous sa botte haïssaient les Césars qui leur faisaient sentir leurs dents de fer, leurs griffes d'airain et qui les piétinaient. Les guerres puniques pour le contrôle de la partie ouest de la Méditerranée illustrent bien la cruauté des Romains dans leurs 3 campagnes contre Carthage, une ville-état dans le golfe de Tunis, fondée par les Phéniciens. Malgré le célèbre exploit d'Hannibal avec ses éléphants, Carthage fut finalement piétinée et rasée, ses habitants massacrés ou vendus comme esclaves. L'Empire romain était impitoyable dans ses conquêtes et les nations européennes auxquelles il a donné naissance sont comme leurs ancêtres la quatrième bête. Ils aiment se faire la guerre. On peut caractériser le XXe siècle de diverses manières, mais ce qui est sûr est que les Européens se sont entretués sans retenue. Mis à part les villes nouvelles, dans tous les villages de France, même les moindres, on trouve un monument aux morts des 2 dernières guerres mondiales sur la place, un autre dans le cimetière, et encore une plaque dans l'église avec les noms de ceux qui sont morts pour la patrie. C'est à peu près pareil dans les pays voisins. Nous sommes foncièrement méchants et cruels. D'après les statistiques historiques que nous possédons, l'humanité s'est livrée 15 000 guerres et a signé 8 000 traités de paix, en gros. Car qui connaît les chiffres exacts? Avec un tel pédigré, l'homme n'a guère de raison d'être fier de lui. Il n'est donc pas étonnant qu'une des grandes caractéristiques du millénium sera la paix. Un prophète dit du Messie qu'il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Fin de citation. Mais en attendant ce jour, les hommes continueront à se faire la guerre. Le premier empire romain, celui des livres d'histoire, a rejeté le Fils de Dieu, le Sauveur, par l'intermédiaire du gouverneur Ponce Pilate. C'est lui qui a dit à Jésus d'un air narquois, « Qu'est-ce que la vérité ?» Rome a crucifié le Christ et persécuté les chrétiens. Mais, avec le temps, l'Empire, représenté par les jambes de la statue de Nabuchodonosor, s'affaiblit et se scinde en 2. la partie est ou empire byzantin avec sa capitale Constantinople, aujourd'hui Istanbul, continuera pendant 1000 ans, tandis que la partie ouest se disloque. Mais l'empire n'a jamais entièrement disparu et son esprit bien vivant est prêt à reprendre corps. Sous sa deuxième phase, à la fin des temps, il renaîtra sous la forme de 10 cornes, c'est-à-dire une confédération de 10 nations ou plus, mais en tout cas une totalité, un ensemble cohérent comme la communauté européenne par exemple. Mais je ne dis pas qu'il s'agit d'elle, ce n'est qu'une illustration parce que je ne suis pas prophète et ma boule de cristal est en panne. Dans sa troisième phase, l'Empire romain apparaîtra sous la forme d'une petite corne. D'abord insignifiante, elle connaîtra une extraordinaire montée en force jusqu'à devenir plus puissante que tous les autres États de sa confédération. Cette corne est l'Antéchrist que l'apôtre Paul appelle l'homme du péché ou de la révolte. Il viendra au pouvoir déguisé en parfait humaniste. Il promettra la paix universelle, la prospérité pour tous. Il sera religieux et encouragera l'ouverture d'esprit la plus large possible dans tous les domaines, sauf bien sûr envers les vrais croyants, car il aura la haine au ventre contre le Dieu unique et vrai, contre Jésus-Christ et ceux qui lui sont fidèles. Je continue le texte. « Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. » Verset 21. Daniel raconte à l'ange ce qu'il a vu et qui l'a particulièrement choqué. Il se demande comment Dieu peut permettre une telle injustice. Jusqu'ici, on possède déjà un certain nombre de renseignements concernant la petite corne. On sait qu'il s'agit de l'Antéchrist, qu'il est intelligent et arrogant, qu'il apparaîtra après les 10 rois, qu'il sera leur contemporain et qu'il prendra la place de 3 d'entre eux. Maintenant, on apprend aussi que cette petite corne persécutera les croyants, c'est-à-dire l'Israël fidèle ainsi que les non-juifs prosélytes, et qu'il les vaincra. Je lis un autre texte. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut, il s'agit de la bête, autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Fin de citation. Cette persécution aura lieu principalement pendant la période de l'histoire appelée la Grande Tribulation. Mais l'Église de Jésus-Christ ne sera plus de ce monde puisqu'elle aura été enlevée dans les cieux où elle célébrera les noces de l'agneau. Enfin, cette petite corne, aussi appelée la bête, sera détruite par Dieu et les croyants qui auront échappé à ses griffes entreront dans le millénium, le royaume de Dieu sur terre. Je continue le texte. Cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours et que le jugement soit donné aux membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. Verset 22. Il s'agit du tribunal céleste. Précédemment, Daniel a vu qu'on installait des trônes. L'ancien des jours prit place sur l'un d'eux, mais il n'a pas dit qui occupait les autres trônes. Maintenant, il nous donne l'information. Ce sont les membres du peuple saint, évidemment, ceux qui ont été tués et qui sont dans les cieux. Le Christ et les apôtres ont enseigné que les saints jugeront le monde et même les anges déchus, c'est-à-dire les démons. Je lis un passage. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Cependant, comme dans les Écritures, les jugements sont rendus au nom de Jésus-Christ, c'est toujours lui qui est désigné comme le juge suprême. Je lis quelques passages. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, Dieu lui a donné autorité pour exercer le jugement. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Une fois le jugement rendu, l'Éternel donne le royaume messianique au Fils pour qu'il règne sur terre pendant 1000 ans, puis dans les cieux pour l'éternité. Les croyants qui ont été tués par l'Antéchrist reviendront à la vie et entreront dans le royaume en compagnie de ceux qui ont échappé à la persécution et à la fin du millénium. Ils suivront le Christ dans les cieux pour l'éternité, où ils rejoindront les croyants du Nouveau Testament, les membres de l'Église du Christ, qui festoient aux noces de l'agneau depuis déjà plus de 1000 ans. En fait, 1000 ans plus 7 ans. Depuis qu'ils ont été enlevés de ce monde un peu avant le début des 7 années de tribulation. Je continue le texte de Daniel. Celui que j'avais interrogé me dit, la quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents. Il dévorera le monde entier. Il piétinera et le déchiquettera. Verset 23. Retour abrupt sur terre avec l'ange qui va répondre à toutes les questions concernant la quatrième bête. L'Empire romain historique avait acquis davantage de territoires que ses prédécesseurs, mais il était néanmoins limité. La petite corne, par contre, va dévorer toute la terre, et cette conquête sera particulièrement féroce. Après sa victoire, l'Antéchrist imposera une dictature mondiale. Dans un autre texte, il est dit que la bête, c'est-à-dire la petite corne, l'Antéchrist, reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Je suppose qu'en comparant ce que je raconte avec l'état actuel des pays de notre planète, vous vous dites « c'est impossible ». Je comprends, mais moi je dirais plutôt « je n'ai pas la moindre idée comment cela va se passer, mais je sais que d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu a dit va se réaliser ». Je continue le texte de Daniel. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs, il renversera 3 rois. Verset 24. La quatrième bête de la vision de Daniel, qui correspond aux jambes de fer de la statue de Nabuchodonosor, est donc l'Empire romain historique qui s'est effondré sous son propre poids de corruption et de divisions internes. Au 5e siècle de notre ère, les hordes barbares venant du nord lui ont asséné des coups de boutoir qui ont mis fin à son hégémonie politique et militaire, mais non pas à son existence. En effet, ces bandes de pillards n'étaient pas unies et n'ont jamais constitué un autre empire avec les morceaux de la quatrième bête. L'Empire romain s'est décomposé en divers États plus ou moins indépendants qui, au fil du temps et de guerre, ont perdu ou gagné des peuples, réarrangé leurs frontières et pris d'autres noms qui existent aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, dans le futur, 10 rois apparaîtront qui constitueront une fédération. Ce sera la deuxième phase de l'Empire romain, un développement qui n'est pas dans les livres d'histoire parce que prophétique. Ce règne des 10 rois durera un certain temps qui ne nous est pas donné. Ensuite viendra sur la scène l'autre roi, c'est-à-dire la petite corne, l'Antéchrist, qui créera la troisième phase de l'Empire romain. Ce despote montera en puissance et fera passer sous son autorité 3 rois ou nations. Hitler aussi avait commencé ses conquêtes de cette manière en annexant l'Autriche, puis en prenant la Pologne de force. Je continue le texte. L'autre roi proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, se proposera de changer les temps et la loi. Pendant un temps, des temps et une moitié de temps, le peuple saint sera livré à sa merci. Verset 25. L'Antéchrist s'opposera à l'autorité de l'Éternel en parlant contre lui. Littéralement, il est dit qu'il se mettra à côté du Très-Haut, ce qui veut dire qu'il se prétendra égal à Dieu. C'est à ce discours hargneux que se rapportent les paroles de l'apôtre Paul qu'en parlant de l'Antéchrist, il dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. » Ce prétendant Dieu, cet être impie, empiétera sur les attributs divins en voulant changer les ordonnances de la loi de Moïse comme le calendrier des fêtes. Plus loin, on apprend qu'il feindra tout d'abord d'être un ami des Israélites avant de se retourner brusquement contre eux. Puis il mettra le comble à son arrogance en établissant la capitale de son empire à Jérusalem pendant 3 ans et demi. C'est ce que l'expression « un temps »,« des temps » et « une moitié de temps » signifie. Pendant cette période de 42 mois ou 1260 jours, des chiffres qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, le peuple saint sera livré à sa merci. L'Antéchrist persécutera les croyants. La durée de la suprématie de cet être infâme a été mesurée et partagée à l'avance par Dieu lui-même. Ces trois périodes inégales correspondent chacune à une phase de la puissance de l'Antéchrist. Durant la première, il établira son pouvoir. Durant la seconde, il la renforcera. Et durant la troisième, il arrivera à sa fin et sera subitement détruit par le retour du Christ en gloire. Je continue le texte. Mais alors viendra le jugement et on ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Le règne, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Versets 26 et 27. L'ange qui explique l'avenir à Daniel fait une déclaration surprenante au sujet du peuple saint. Il dit qu'il jouira de la souveraineté et du règne éternel. Des fonctions précédemment attribuées à Dieu le Père et Dieu le Fils. Je rappelle deux passages en les résumant. Je louais celui qui vit éternellement et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. On lui donna, au Fils d'homme, la souveraineté et la gloire et la royauté et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Fin de citation. De même que Dieu règne par l'intermédiaire de Jésus-Christ, le Fils d'homme, ce dernier règne de lui-même et par l'entremise du peuple des saints. De toute éternité, la volonté de Dieu a été de partager sa gloire et son règne avec un peuple qui saurait apprécier son Créateur à sa juste valeur, qui reconnaîtrait sa grandeur infinie, sa bonté et son amour, et qui lui exprimerait sa gratitude et son adoration. Nous sommes à la fin de la grande tribulation et un tribunal composé de l'Ancien des Jours, de Dieu, le Fils, ainsi que des croyants qui sont déjà dans les cieux, est rassemblé et prononce le châtiment de l'Antéchrist. Les anges ne sont pas mentionnés parce qu'on ne leur demande pas leur avis. En effet, leur rôle se borne à servir et adorer Dieu, et les événements sur terre ne les concernent pas directement. Il est décidé que la petite corne, la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist, doit être abattue. Sa domination est terminée et lui-même est jeté dans l'étang de feu. En même temps que ce jugement est prononcé, Jésus-Christ revient sur terre et établit son royaume avec les siens, les membres de son Église, ainsi que le peuple saint du Très-Haut, c'est-à-dire les croyants de l'Ancien Testament. Le Messie régnera avec un sceptre de fer sur toutes les nations de la terre pendant 1000 ans. Il perdurera, car rien ni personne ne pourra le renverser. Ensuite, ce royaume continuera dans les cieux pour toute l'éternité, en compagnie de tous les sauvés. Les théologiens d'obédience libérale ainsi qu'un certain nombre de vrais croyants pensent que le millénium ne correspond pas à 1000 années, mais que c'est seulement une façon de parler de l'éternité. Cependant, dans le sillage des apôtres, les pères de l'Église des premiers siècles avaient adopté une interprétation littérale des textes sacrés. Après que Saint Potin fut exécuté par Rome en l'an 177 de notre ère, Irénée, un père de l'Église, lui succéda à la tête du diocèse de Lyon. Il écrit « Alors cet Antéchrist aura dévasté toute chose en ce monde, et il règnera pendant 3 ans et 6 mois, et il s'assoira dans le temple de Jérusalem. Et alors le Seigneur viendra des cieux sur les nuages dans la gloire du Père. Il enverra cet homme et ceux qui le suivent dans les temps de feu. Mais il instaurera pour les justes le royaume, c'est-à-dire le repos, la sanctification du septième jour, et il restaurera à Abraham l'héritage promis dans ce royaume, au sujet duquel Jésus a dit « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. » Fin de citation. Il ne fait donc aucun doute que Irénée croyait que le Christ établirait un royaume de 1000 ans sur cette terre. Jusqu'au concile de Nicée en 325 de notre ère, la position de l'Église dans le domaine eschatologique était la ferme conviction que Jésus reviendrait triomphant et dans la gloire, en compagnie des croyants ressuscités pour régner pendant 1000 ans sur cette terre. Après quoi aurait lieu la résurrection des non-croyants et le jugement du grand trône blanc. Je finis le chapitre 7. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire. Verset 28. Ce n'est que lorsque Daniel a composé son livre qu'il a parlé de ses visions. Quand il les a reçus, il est resté bouche cousue tellement il était stupéfait par ces révélations fantastiques. Et aujourd'hui, c'est pareil. On ne peut les accepter que par la foi, car elles ne sont sur aucun radar, ni des scientifiques, ni du commun des mortels.